Une autre actualité plus brûlante, le 2 juin dernier, Régis Sector, un dessinateur de presse militant et mosellan, a publié son deuxième tome de Ma guerre en Ukraine illustrée, un ouvrage qui revient sur le conflit russo-ukrainien qui dure depuis février 2022. Bonjour Régis Sector.
Bonjour.
Régis Sector, vous êtes dessinateur de presse depuis 1986, mais vous êtes depuis quelques années très sensible et bouleversé au sujet de la guerre en Ukraine. Nous vous connaissons aussi comme un dessinateur de presse militant sur cette question. Qu'est-ce qui a déclenché cela en vous ?
Je suis comme Obélix, je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans pas tout petit, je suis tombé dedans en février 2022. L'histoire avec un grand H m'a toujours intéressé. Et étant natif ici de la région, nous sommes une région qui a beaucoup souffert des conflits mondiaux. Donc ça fait partie de ça aussi, c'est une base de mon travail. Ressentir une guerre qui arrive sur notre continent, en Europe, pour des raisons fallacieuses de la part de Poutine, ça a déclenché en moi un esprit de résistance que je tiens peut-être de mon grand-père, qui l'a été lui en son temps.
Et ensuite, comment vous êtes devenu un dessinateur de presse engagé ?
Moi, je faisais simplement mon travail de dessinateur de presse. C'est-à-dire, j'illustrais, je commentais ce qui se passait. Et un de mes dessins sur le conflit en Ukraine avait été remarqué par le directeur du Centre mondial de la paix à Verdun, et il m'a demandé s'il pouvait l'avoir en exemplaire pour l'accrocher dans une des expos qui s'intitulait à l'époque Drôle de paix. Alors je lui ai dit oui, banco. Et je lui ai dit j'ai plein d'autres dessins si tu veux sur le sujet, parce que ça fait partie du boulot. Il me les a pris et il a eu l'initiative de les envoyer lui au musée de l'histoire à Kiev. Et il m'a mis en rapport avec eux, et en fait ça fait un peu boule de neige comme ça. Et j'ai continué à alimenter le dessin. Et en fait, je me suis lié beaucoup d'amitié avec les gens du musée. Ils m'ont ouvert une page sur leur site. Ensuite, moi, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'une journaliste ukrainienne qui s'était réfugiée ici en Moselle. Elle est retournée depuis avec sa famille à Kiev. Et c'est un peu mon attaché de presse là-bas au pays, et celle qui entretient tous les contacts là-bas. Donc oui, et puis au fur et à mesure, en fait, moi, à force de dessiner sur le conflit, j'ai appris à les connaître, j'ai connu pas mal d'autres Ukrainiens et Ukrainiennes, donc il y a vraiment une amitié naissante qui a grandi, et c'est sûr que d'un simple observateur de presse, je suis devenu partisan. Plus le mensonge est gros de la part du pouvoir russe, plus mon envie de le contrecarrer a été grandissante. Et voir la condition de vie de mes amis en Ukraine, ça aussi, ça a commencé à faire bouillir un peu mon sang, l'encre de mon stylo. Et c'est sûr que, de toute façon, j'ai toujours rien fait pour les opprimer. Donc, les Ukrainiens n'ont pas déclenché cette guerre, contrairement à ce que veut faire croire Poutine. C'est quand même ce petit homme qu'il est qui a tout décidé de les envahir un jour. Et stop aux mensonges, quoi. C'est pour ça que, en fait, je suis militant, parce que si par mon travail je peux être une petite étincelle qui permet de garder un spot lumineux sur le malheur de ces gens-là, ben tant mieux.
Depuis le début de la guerre, vous dessinez pour Opinion Internationale, un média indépendant, ou Cartooning for Peace, un réseau international de dessinateurs de presse engagés. Vous pouvez nous présenter brièvement ces deux entités ?
Ben, Opinion Internationale, j'ai arrêté de ma collaboration avec eux, en fait, parce que on va dire que toute bonne histoire a une fin. Hein. J'ai collaboré avec eux pendant 4 années où j'étais libre de faire ce que je voulais. Déjà, c'est ce qui m'intéressait. Même si j'étais pas toujours d'accord avec certains papiers qui paraissaient dedans, mais c'était un webmédia de totale liberté d'expression. Je ne dis pas que tous les courants y étaient, heureusement, parce que certains courants avec lesquels j'aurais vraiment pas aimé me côtoyer. Puis j'ai eu pas mal d'autres boulots, etc. Donc à un moment, il a fallu que je lâche un petit peu une partie de mon travail. Et Cartooning for Peace, c'est une association mondiale de dessinateurs, de presse, qui milite pour la liberté d'expression, mais aussi qui sur le sort de certains dessinateurs dans le monde. Il faut savoir qu'il y a pas mal de dessinateurs de presse qui, dans leur pays, sont en prison parce qu'ils ont dessiné le pouvoir en place, etc. Et donc, ils viennent en secours de ces dessinateurs-là. Et aussi, ils ont aussi un gros travail de pédagogie auprès des scolaires, auprès du public, sur la liberté d'expression et sur le droit à l'image.
Et vous intervenez également chaque année dans des établissements scolaires pour présenter et sensibiliser sur votre métier de dessinateur de presse. Quelle classe allez-vous voir ?
Ben, en ce moment, je suis en résidence d'auteur avec le CNL, sous la tutelle du CNL, dans un collège, le collège des Avrils à Saint-Mihiel. Et là, j'ai des élèves de 4e. Et avec eux, je suis en train de travailler donc, justement sur le dessin de presse, sur la liberté d'expression et sur comment on peut avoir les infos et qu'ils fassent attention aux fake news, aux réseaux sociaux, où c'est qu'ils vont chercher leurs informations. J'ai fait tout un travail avec eux à ce niveau-là, puis bien sûr accompagné de leurs profs d'histoire et de français. Et en ce moment, il me reste encore 2 séances à faire, et à la fin de ces 2 séances, normalement, on aura fait un mini journal de dessin de presse où chaque élève a choisi un ou deux sujets et les a illustrés. C'est là qu'ils apprennent qu'ils peuvent écrire, dessiner ce qu'ils veulent, à partir du moment où, dans le respect, et puis aussi dans une totale liberté, quoi. C'est ça, c'est le but de l'atelier aussi.
Est-ce que vous travaillez avec des lycéens des fois, ou c'est uniquement des collégiens ?
Non, moi je suis preneur de tout âge au niveau collaboration. Ça m'est déjà arrivé d'intervenir en lycée aussi, oui, bien sûr. Oui.
Et alors, comment vous vous adressez aux enfants lorsque vous en parlez, ou plus âgés aussi ?
C'est vrai qu'il faut s'adapter après à chaque âge, donc il y a des sujets, on n'aborde pas tous les sujets de la même manière, c'est sûr. Mais on peut être surpris des fois quand même par les yeux ouverts qu'ont les plus jeunes déjà sur l'actualité. C'est dans le monde dans lequel on vit, comme ils sont tous des téléphones, des smartphones. Et c'est juste là l'intérêt de nos interventions, justement de veiller à ce qu'ils ouvrent les yeux sur les bonnes infos et les bonnes images. Donc c'est vrai que je m'adapte chaque fois au public que j'ai en face de moi. Mais j'ai pas de recette magique, c'est aussi du feeling aussi.
Qu'est-ce que vous leur dites sur l'importance du dessin de presse engagé ?
Je leur dis que le dessin de presse est aussi en danger, parce que malgré tout, bon, après les fameux attentats, et en plus c'est des jeunes, ils n'étaient pas forcément tous nés à l'époque, ou à peine nés, je ne sais pas, mais ils connaissent quand même les attentats de Charlie Hebdo, c'est ça qui m'a agréablement surpris, le fait qu'ils connaissent cette actualité-là. Et c'est vrai qu'après ce moment-là, on a tous crié à la liberté d'expression, tous Charlie, mais c'est vite tombé. Hein. Quelques années après, je ne sais plus quel journal américain a licencié son dessinateur de presse. Il y a quand même beaucoup moins de dessins dans la presse actuellement. Quoi. Alors, il reste heureusement en France, il nous reste encore le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, qui sont vraiment des journaux conçu pour ça, mais dans les médias traditionnels, il y a quand même un peu moins de dessins, malheureusement.
Vous sensibilisez aussi sur les fake news, et vous constatez de manière générale que les jeunes sont assez sensibilisés sur ces fake news ?
Non, ils le savent, ou ils le disent peut-être pour certains mécaniquement, mais il y a encore du travail à faire là-dessus, c'est sûr. Hein. Je crois que les plus jeunes comprennent mieux, et les ados, ils sont un peu plus naïfs à ce niveau-là. L'impression. C'est peut-être ce qu'on appelle un peu l'âge bête, c'est peut-être pour ça.
Et comment vous les sensibilisez sur les fake news ?
J'essaye de leur montrer une info comment elle est traitée par des médias sérieux et des infos qui sont tronquées, c'est-à-dire les trucages de photos, les trucages de dessins, ou sortir un mot de ce contexte pour leur faire dire quelque chose d'autre. Et puis je leur parle aussi des dangers de l'intelligence artificielle maintenant qui peut aider ceux qui ont envie de tronquer l'info de mieux travailler encore. Et puis j'ai des exemples en ce moment sur le conflit russo-ukrainien, sur les images où il y a des images de propagande, et puis je leur montre aussi des images de propagande à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ou leur dire que les fake news et la propagande, c'est exactement la même chose.
Et pourquoi c'est important pour vous de parler et de sensibiliser le jeune public sur votre métier ?
Parce qu'en fait, le dessin, c'est avant tout, c'est du partage et donner envie. Je fais pas des petits miquets dans mon coin pour mon propre plaisir. Hein. Ça m'arrive d'en faire, bien sûr, hein, parce que de toute façon, quand on dessine, on dessine toujours, mais Mais les sacs que je fais sur l'actu ou mes bandes dessinées, c'est quand même pour les partager et pour les offrir aux autres. C'est de raconter l'histoire, être un témoin. Et quand on est témoin, on n'est pas un témoin caché dans un buisson, donc il faut se montrer.
Nous allons maintenant parler de votre livre « Ma guerre d'Ukraine illustrée ». Le tome 1 était sorti en 2023 et le tome 2 est sorti le 2 juin dernier. Je vous propose de revenir sur le premier tome avant d'évoquer le deuxième. Comment abordez-vous la guerre en Ukraine ? Est-ce que c'est une trame narrative ? Est-ce que c'est des séries de dessins ?
Il y a un personnage récurrent dans le premier tome et dans le deuxième aussi, c'est Vladimir Poutine. Je pense que j'aurais jamais pu autant dessiner un si mauvais personnage. Mais bon, voilà, je l'ai fait parce qu'en fait, je me plais à dénoncer le pouvoir soviétique, j'allais dire, mais oui, parce qu'on est en plein dedans, quoi. Le pouvoir russe. Je ne critique pas dans aucun de mes dessins, si vous les avez regardés, je ne critique jamais le peuple russe. Le peuple russe est, à mon sens, la première victime du pouvoir en place. Donc, quand je m'attaque aux Russes en général, donc c'est forcément donc leur président, Poutine, les généraux et puis les militaires anonymes. Et le fil conducteur, c'est sûr que c'est. Malheureusement, le fil conducteur, c'est la faucheuse, quoi. La mort apparaît dans pas mal de mes dessins. Quand on bombarde un jardin d'enfants, je fais un dessin dessus et ça, c'est pas facile. Mais j'ai dit, faut le faire quand même.
Est-ce que vous pouvez décrire à nos auditeurs qui nous écoutent à quoi ressemblent vos dessins et quelles sont leurs particularités ?
Moi, je suis un dessinateur de gros nez, quoi, quand je fais du dessin de près. Donc c'est un peu une école un peu franco-belge, on va dire. Hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu, j'étais à cette école-là avec un dessin peut-être un peu plus... Ouais, propre quand même que Spirou, etc., un peu plus sale, parce que le dessin de presse, c'est un dessin où je vais vite, exprès, parce que l'actu passe vite, donc je m'habitue à dessiner vite. Souvent, j'interviens aussi en conférence, où je fais des dessins en direct, donc j'ai appris à travailler très vite, et puis j'aime bien ces dessins, puis j'aime bien prendre des photos un peu secs, pour que le trait soit un peu, entre guillemets, un peu pourri, comme ça, parce que je trouve que ça lui donne une petite émergence, comme ça, qui est assez sympathique. Je mets toujours des personnages en situation. Je ne me contente pas de faire des bonhommes debout ou assis et puis qui se parlent. Il y a très peu de bulles, j'essaye. Parce qu'en plus, vu que les dessins partent en Ukraine, donc faut que l'humour français n'est pas forcément le même humour chez nos amis slaves et tout. Donc, ce n'est pas toujours compréhensible. Donc, plus mon dessin est muet, on va dire, mieux j'aurais réussi. Paris.
Quel personnage vous dessinez le plus et quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus aussi ?
Le jaune et bleu, les couleurs de l'Ukraine que j'aime bien. Malheureusement, j'en mets un peu du rouge, du bleu et du blanc parce que je dessine un drapeau de l'ennemi, un drapeau russe. Et puis Zelensky, je dessine régulièrement et puis après, c'est beaucoup des anonymes quoi, parce que. À moins qu'un grand des politiques européens aussi, j'ai déjà dessiné Macron. Quand ils font des interventions ou il y a des choses qui se passent, la présidente de la Commission européenne, par exemple, je la dessine aussi. L'ancien chancelier allemand, même Orban, le collabo hongrois des Russes, quoi, je l'ai dessiné.
Vos personnages sont représentés de manière caricaturale. Et sur quel aspect physique vous exagérez le plus ?
En fait, c'est vrai, quand on dit caricature, on voit des caricaturistes, on va dire, sur les bords de plage, etc., ou à Paris, au but de Montmartre, ils ont toujours un mécanisme de grossir des nez, des grandes oreilles et tout, mais moi, c'est pas ça le but. Ma caricature, mon personnage, en fait, je prends le personnage et je le transforme en personnage de bande dessinée, en fait. Mais c'est ça, ma caricature. Bon, s'il est petit, il est petit. Peut-être je le réduis un petit peu encore, mais sinon, je vais pas accentuer des parties de son anatomie si elles ne le sont pas. S'il a des grandes oreilles, bien sûr, je fais des grandes oreilles. François Bayrou, si je dois lui faire des grandes oreilles, je ferai des grandes oreilles, par exemple. Mais je m'accorde toujours un respect quand même au physique des gens. Moi-même, je suis pas une gravure de mode, donc je vois pas pourquoi je vais me moquer des gens. Je préfère me caricaturer leurs propos et leurs actes. Pour moi, elle est là, ma caricature. Eux, je les transforme simplement en personnages de BD.
Et vous décidez d'aborder le conflit sur le ton humoristique. Pourquoi ce choix ?
je trouve que c'est une belle arme. Si vous enlevez le rire et le plaisir à un peuple, c'est sûr, c'est ce que les Russes ont fait à leur propre peuple. On n'en voit pas beaucoup rire et sourire chez eux. Voilà, et ben, ils n'enlèveront jamais le rire. Vous savez, en Ukraine, actuellement, avec tout ce qu'ils vivent, ils chantent encore. Il y a des concerts, il y a des opéras, les bars sont ouverts, les discothèques sont ouvertes, parce qu'il faut vivre. Et justement, c'est là qu'on va puiser la force et l'énergie. Et on peut rien contre un peuple qui a envie de rire et de vivre. On ne peut rien faire contre un peuple qui a envie de vivre.
Vous représentez des commandos terroristes de Daesh dans votre ouvrage illustré. Vous n'avez pas peur parfois d'avoir des représailles comme les dessinateurs de Charlie Hebdo, morts pour cela il y a quelques années?
En fait, ça, c'est une actu. Hein. Je ne sais plus quelle salle de spectacle a été attaquée. Attaqué par des terroristes en Russie.
Ah, oui.
C'était en Russie. Et Poutine voulait pas montrer à son peuple que des terroristes islamistes pouvaient s'en prendre dans son pays. Donc il avait essayé de mettre ça sur le dos des Ukrainiens. C'est pour ça que j'ai dessiné ça. C'est suite à une fake news de M. Poutine, qui refuse de dire que son pays est aussi, peut être aussi victime de... Vous savez, depuis l'attaque, il y a une vraie parano en Russie actuellement, depuis l'attaque d'avant-hier de drones cachés dans des camions par les services secrets ukrainiens, tous les camions en Russie se font arrêter tous les 200 mètres, mais ils fouillent. Vous voyez la paranoïa de ces gens-là, donc. Ce sont des individus comme les autres. Apparemment, ils ont attaqué quand certains avaient dessiné le prophète. Donc là, je ne dessine pas le prophète, je dessine des terroristes. Donc, voilà.
L'autre particularité de votre livre, c'est que les propos des personnages sont traduits en anglais. Pourquoi ce choix?
Parce que c'était plutôt de le traduire en ukrainien. Non, l'anglais, c'est quand même la langue universelle, même si j'ai une grande préférence pour la langue de Molière, on va dire. Ça donne une identité au bouquin un peu plus... c'est plus facile, mon vendeur à l'étranger. Quand même.
Pourquoi avez-vous choisi de faire paraître un deuxième tome de Ma guerre en Ukraine illustrée?
J'avais dit, j'espère qu'il n'y aura pas de tome 2. Mon but, c'était qu'il n'y ait pas de tome 2. Là, je vais vous dire, mon but, c'est qu'il n'y ait pas de tome 3. C'est-à-dire que la guerre sera finie. Mais là, j'avais trop de dessins encore, et puis j'avais encore trop envie de témoigner. C'est trop important. Alors ce dessin, j'ai quand même fini cet album avec un dernier dessin qui est avec la mort du pape François. Parce que le jour de son enterrement, donc Zelensky et Trump se sont rencontrés. Ça fait une photo qui a fait beaucoup parler et tout, mais moi je trouve que si cet événement-là a permis cette rencontre et qu'enfin Trump ait les oreilles écoutantes aux Ukrainiens, je dis que le pape François, il a réussi sa mission. Et je le fais justement en train de s'envoler, son ange en train de s'envoler, et qui dit « je vais peut-être pouvoir partir en paix ». Donc j'ai voulu terminer ce bouquin-là. C'est un bouquin que j'ai rajouté c'est un dessin que j'ai rajouté dans le tome 2, juste la veille qu'il parte chez l'imprimeur. Je dis, stop, on arrête tout, je fais vite le dessin, je le colle dedans. Parce que je dis, s'il n'y a pas de tome 3, au moins le tome 2 aura été terminé par un dessin positif.
Et justement, qu'allez-vous aborder de différent par rapport au premier tome?
En fait, c'est la suite, malheureusement, c'est la suite. Il est même plus riche en dessin parce que. Je sais pas pourquoi, j'ai tellement plus. Quand j'ai repris après mon petit coup de mou que je vous ai raconté tout à l'heure, j'ai repris un petit peu d'énergie et tout, donc j'ai eu plein de dessins. Puis il s'est passé plein de choses. Et puis initialement, ce tome 2 devait paraître au mois de février, à la date anniversaire de l'invasion. Et pour des raisons techniques et autres, ça n'a pas pu se faire. Et tant mieux, parce que entre temps est arrivé Trump. Et il a tout chamboulé. En bien, en mal, enfin bref, on n'en sait rien. Il a quand même foutu un sacré bazar dans le monde qui nous entoure. Et donc ça m'a donné de nouveau de l'énergie, parce que c'est pour ça qu'il apparaît plein de fois dans le dessin. Mais au moins, on va dire, le côté bénéfique peut-être de cette chose, c'est que tout le monde s'est remué et tout le monde a dit, on ne peut plus compter sur eux, et donc il faut qu'on se bouge. Et en fait, l'effet inverse, parce que Poutine, il rêvait justement de, en se servant de Trump, de foutre en l'air l'Union européenne. Et en fait, je crois que l'Union européenne, que Macron disait d'une mort qu'elle était morte cérébralement, elle n'y est plus, mort cérébrale, et tant mieux, elle est en train de renaître, et que c'est une bonne chose. Moi, je suis convaincu, je suis un Européen convaincu, maintenant. Je ne l'ai peut-être pas toujours été, mais je le suis, et puis je trouve que c'est une riche idée. Après, il faut voir qu'elle va construire. Mais au moins, les lignes bougent, et voilà, il était temps. Et je me rappellerai toujours que mes amis ukrainiens m'avaient toujours dit, au début du conflit, ils me disaient, mais nous, en Ukraine, on est là pour vous protéger. Hein. Parce que le champ de bataille, ça va être l'Ukraine. Et si nous, on tombe. C'est pour ça que ce qui se passe actuellement au niveau international, il y a des choses pas très sympas, mais il y a quand même de l'espoir. Hein. Puis, de toute façon, comme j'aime l'histoire, l'histoire, pour l'instant, est toujours tombée du bon côté. Après, hein. C'est-à-dire que les despotes finissent toujours par tomber.
Quel autre personnage nous pourrions voir dans ce tome 2 ?
Donc, il y a eu l'arrivée de Trump. Il y a Zelensky qui est pas mal dedans aussi, cette fois-ci. Et puis... Et puis après, c'est beaucoup des anonymes. Et puis forcément, Poutine qui est l'anti-héros permanent du bouquin. J'ai beaucoup dessiné une petite colombe avec un rameau d'olivier, mais pas toujours dans un bon état, la pauvre. Mais ouais, elle est apparue un peu plus souvent dans ce tome 2.
Quel avenir vous comptez donner à ce livre ? Est-ce que vous voulez peut-être le présenter à des élèves, en parler ?
Oui, je vais faire sûrement le tour de certains établissements scolaires là-dedans. Moi, je suis open à tout. J'ai la chance qu'il soit préfacé, ce tome 2, par Gabriel Attal. Comme il est président du groupe France-Ukraine à l'Assemblée nationale, alors on l'a contacté et il a dit oui tout de suite. C'est-à-dire le jour où je lui ai demandé s'il voulait bien le préfacer, deux jours après, je recevais son texte. Puis j'ignorais, mais il a des origines ukrainiennes du côté de sa grand-mère. Donc il n'est pas impossible que je fasse un saut à l'Assemblée nationale, rencontrer les gens du groupe France-Ukraine pour présenter le bouquin et tout. Moi, ce bouquin, honnêtement, il n'existe pas pour que j'existe, moi. Il existe pour que l'Ukraine existe. C'est pour ça que je fais ce bouquin. Sinon, j'aurais abandonné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis longtemps, parce que ça me minait. Mais non, moi, je vais être toujours le petit phare qui dit « Attendez, il se passe toujours quelque chose à 3 heures d'avion de chez nous. Il y a d'autres conflits dans le monde. Hein. On en connaît un autre ailleurs, puis il y en a encore d'autres ailleurs. Bon, moi, je suis tombé sur celui-ci. Malheureusement, on ne peut pas... malheureusement, on ne peut pas tout faire. Mais voilà, bon, ben moi, j'ai... Donc mon combat, c'est celui-là pour l'instant, c'est de garder qu'on garde toujours un éveil et puis que la lumière soit toujours braquée, parce que je comprends que des fois, il y a en France, majoritairement, les gens sont encore sensibles au conflit ukrainien, mais c'est vrai que les gens ont leurs propres soucis, ça fait 2 ans que ça dure, on a toujours l'impression que c'est la même chose, des bombes, mais oui, c'est ça, malheureusement, c'est leur quotidien, c'est des bombes. Et on peut s'en lasser au bout de 2 ans, et puis on dit, tiens, chez nous on souffre, pourquoi on envoie de l'argent là-bas ? Vous voyez, il y a plein de mélanges, de mélanges d'infos, parce que les gens mélangent tout, et je dis, c'est ça le danger. Donc, le rôle de vous, les médias aussi, c'est de continuer à en parler d'une manière positive, de dire la vérité, parce qu'il y a tous les fake news qu'il faut que nous, on combatte ensemble. Et puis voilà, puis moi, mon job de dessinateur, s'il peut être un peu... Je ne suis pas un battant en guerre. Hein. Je ne suis pas du tout un battant en guerre. Je suis même plutôt, je pense plutôt un soldat de la paix avec mon stylo. Quoi. Moi, je ne suis pas là... Mais voilà, moi, je n'ai pas de balles, j'ai des bulles. Quoi. Donc,
Et pour finir cet entretien, où pouvons-nous trouver le tome 2 de Ma guerre d'Ukraine illustré ?
À Metz, pour l'instant, on le trouve... à la librairie Momy, à la galerie d'Esplanade, je crois, et aussi à la librairie La Pensée Sauvage.
L'invité de RCF dans ce 18-19 était Régis Sector, le dessinateur de presse mosellan qui parlait de son deuxième tome, Ma guerre d'Ukraine illustrée, sorti le 2 juin dernier. Place maintenant au grand entretien avec Yves Pacalet,